Ribine. Le magazine qui explore, qui visite, qui voyage et qui découvre. Parcourez les chemins de traverse en suivant nos micros.
Aujourd'hui dans Ribine, on prend des nouvelles. Il y a un an, nous étions allés à la rencontre de Jean, de Gwenola Grouel et de Morvac. Un vieux gréement en bois qui a parcouru les mers et les océans. Un bateau qui est aussi un membre à part entière de la famille Grouel. Il a été construit par le père, Jean, il y a 50 ans. Et Gwenola, la fille, a elle grandi sur et avec Morvac. Elle nous raconte aujourd'hui son histoire.
Alors Morvac, il aurait eu 50 ans en fait cet été, ou en novembre, ça dépend comment on calcule. C'est un bateau qui a été construit sur les chantiers Tertu, hein, qui sont très connus, pas de tout le monde maritime en fait, parce que c'est un célèbre charpentier de marine, et c'est lui qui a dessiné les plans selon en fait le souhait de Jean Grouel. Et c'est Jean Grouel, mon père, qui l'a réalisé dans sa folie de jeunesse il y a 50 ans sur les chantiers Tertu. Donc on a pas mal navigué avec, que ce soit les amis, la famille, les amis des amis, différentes générations. On a même traversé l'Atlantique avec. Et puis voilà, en octobre 2020, il s'est échoué lors de la tempête Alex. C'était juste les mauvaises conditions. Donc voilà, ça a été un gros choc pour tout le monde. Et on s'est relevé les manches, poussé un peu par la population, les amis, la famille, tout le monde. Parce qu'on savait que c'était quand même un petit peu un défi. Et voilà, on a monté l'association et on a décidé de tout faire pour pouvoir collecter l'argent nécessaire pour le remettre à flot.
Et justement, quelles sont les actions qui permettent de financer ces réparations? Comment est-ce que vous essayez de rassembler cette somme?
Alors déjà, c'est faire connaître l'histoire et faire connaître que la cagnotte est ouverte, donc avec des personnes comme vous. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a effectivement pu rencontrer pas mal de personnes à la fois à la radio, au niveau des journaux, les journaux locaux aussi. On a des journaux de la presqu'île de Crozon qui ont été hyper collaboratifs, qui nous ont permis de faire des beaux articles. C'est la première chose, hein, c'est faire savoir, faire connaître, toucher les cœurs, toucher un public qu'on ne connaît pas, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui venaient dans la presqu'île en vacances, des fois depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui étaient très attachées au bateau. Donc ça, nous, on pouvait pas les connaître, on pouvait pas les savoir. Donc fallait aller à leur rencontre. Donc ça a été une des premières choses. Travailler sur les réseaux sociaux aussi, donc créer un groupe Facebook, un blog, voilà. Une plateforme de collecte d'argent qui soit claire aussi, qui soit compréhensive. Pour pouvoir circuler. On a aussi fait des tracts, hein. On a mis des affiches un peu dans toute la presqu'île. Je crois que c'était difficile de passer à travers. C'était une des premières actions. Ensuite, c'était aussi d'aller à la rencontre par des objets. Donc on a eu la chance d'avoir l'entreprise Zanzibar, c'est une histoire de famille, ça aussi c'était une belle histoire, que je ne connaissais pas du tout le propriétaire de Zanzibar, qui en fait aimait déjà le Morvac, l'avait déjà utilisé dans ses publicités, et qui nous a offert des vareuses et des bugs gratuitement, donc ça c'était vraiment très chouette. Et ensuite il nous a aussi fait des super t-shirts, il a travaillé sur le logo, il nous a fait des super t-shirts à un prix exceptionnel, qui ont pu être vendus aussi pour les bénéfices du Morvac. Et puis on a fait d'autres objets, on a aussi une artiste, Anna Cox, pareil, qui a navigué sur le Morvac, elle, et qui était vraiment très touchée, une jeune artiste, hein, qui donc nous a fait des tote bags et des posters magnifiques qu'on a pu vendre. C'est aussi des supports de communication en même temps que des ventes. Donc on a fait les marchés cet été, on a fait le marché de Camaret, de Crozon, on est allé aussi au Super U qui fait des pots-ventes, on a été au Leclerc, on a été aussi à Roscanvel, enfin voilà, on a essayé de diffuser au maximum. C'est à la fois un moyen d'en parler, de se faire un peu aussi des sous, mais aussi de porter le projet en fait et de faire connaître plus largement. Et puis on a aussi eu la chance d'avoir un super beau partenariat avec la brasserie du Bout du Monde. Alors ça, c'était vraiment très chouette. Alors, ils nous ont fait gracieusement l'étiquette, hein, en utilisant aussi le logo que nous avait fait Zanzibar. Donc, ça donne une chouette étiquette voilà, qu'ils nous ont offert. Et on a une bière qu'on a pu faire livrer à la voile. Donc, 70 packs quand même, c'est pas mal. Hein. Et là, on relance l'édition parce qu'on a été contents. On sait que c'est une bière de qualité en plus. Donc en fait, le plus important pour nous, c'était vraiment de divulguer au maximum l'opération de récolte d'argent, de le faire connaître du public très large. Et puis bien sûr aussi de monter des petites actions de collecte qui sont à la fois des supports de communication et puis qui permettent d'arrondir un peu les caisses aussi pour la collecte, de diversifier en fait les sources d'argent.
Et donc, grâce à toutes ces actions, on va parler chiffres. Combien d'argent vous avez obtenu pour le moment ?
Alors aujourd'hui, on est à 64 000, ce qui est super, hein, parce qu'on parle de 64 000 sans subvention. On a eu 1 000 euros qui a été donné par la mairie de Camaret, mais à part ça, c'est absolument pas des subventions, ce qui est des dons. Donc on est quand même très fiers. Ça rend l'opération très crédible. Alors on a la chance maintenant d'avoir obtenu le BIP. C'est un label super important pour les vieux gréements. C'est le label des bateaux d'intérêt patrimonial. Et c'était indispensable pour pouvoir faire les demandes de subvention. Donc c'est une reconnaissance à laquelle on était très attachés. On n'avait jamais fait les démarches avant puisqu'on se débrouillait en interne sans rien demander à personne. Donc ça y est, maintenant on l'a obtenu. Donc on fait les demandes de subvention. À la région, au département. Alors c'est un peu laborieux hein, parce que c'est des institutions. Là je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il faut que je les redépose autrement. On va faire le jeu. Hein. Mais on espère en tout cas pouvoir du coup compléter aussi une partie de la somme de cette façon. Ça va nous donner vraiment la possibilité de faire les vrais travaux parce que, enfin voilà, il y a différents niveaux dans les travaux. Si vous voulez, il y a vraiment... boucher le trou, qui est quand même pas du tout comme une charpente de maison. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui se situe au même niveau. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des contraintes de force qui sont pas du tout les mêmes et qui obligent à reprendre la structure beaucoup plus profondément. Et c'est pour ça aussi, parce qu'on a beaucoup été challengés sur le prix, mais c'est complètement légitime quand on comprend la structure d'un bateau. Tout travail, il y a des contraintes. On peut pas jouer sur ça, en fait, hein, pour la solidité et pour pouvoir... Enfin, c'est un bateau marin, hein, c'est pas un bateau qui reste juste à faire le bord des plages, hein. C'est un bateau qui est fait pour traverser l'Atlantique. Donc nous, on ne veut pas, je dirais, brader cette solidité, cette fiabilité qu'on a dans le navire. Donc c'est clair qu'il y avait des travaux d'infrastructure très importants. Donc là, on a sécurisé, je dirais, l'essentiel, le gros, c'est-à-dire les membrures, les bordées, reprendre vraiment à la base. Il y aura également une partie de l'étrave qui est à refaire, parce qu'il a aussi pas mal cogné au niveau de l'étrave. Donc là, il va falloir voir comment on peut faire. Mais il y a des choix qui sont faits par rapport à l'argent qui est disponible. Donc il y a des choses qui sont... un peu, je dirais, délicate. Par exemple, maintenant que les barreaux de pont sont défaits, puisqu'on a enlevé la pressin, donc la partie qui était en haut de la coque, on savait qu'il y avait des barreaux de pont qui étaient à revoir. Alors, c'est normal, au bout de 50 ans, il y a des petites entrées d'eau, il y a des petites machins, ça ne remet pas en cause du tout le bateau. Mais c'est juste dommage, alors qu'ils sont, je dirais, maintenant à nu et accessibles, de pas justement les doubler ou machin, si on refait pas tous les barreaux de pont, quoi. Mais en tout cas, travailler là-dessus. Il y a évidemment toute la partie, je dirais, de solidité aussi au niveau du balcon qui est à refaire, puisqu'il y a des parties qui ont été abîmées, etc. Voilà, il y a des choses comme ça, du pont aussi, qui ont travaillé, qui ont été je dirais, abîmées par les chocs, hein, ou qu'on a touché en enlevant de la précinte. Bon, ben voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas refaire n'importe comment. Donc, les choix, les décisions et les matériaux sont influencés par la somme qui est disponible. Et c'est vrai que là, on est dans des conditions idéales, puisqu'il est hors d'eau, ce qui n'est jamais arrivé, en fait. Hein. Depuis qu'il a été mis à l'eau il y a 50 ans, il n'est jamais sorti de l'eau autrement que sur la grève, en fait, je veux dire, avec les marées basses. Donc là, il est hors d'eau, il y a l'électricité accessible facilement, on peut travailler facilement sur le pont. C'est juste dommage de louper ce coche, en fait, pour faire toutes les pièces concordées facilement. Donc c'est vrai qu'on essaye de prendre en compte tous les besoins qu'il peut y avoir pour qu'il reparte vraiment sur 50 ans. Ça va pas du tout dire qu'il n'y aura pas d'entretien, mais en tout cas, les choses de fond seront... ce qu'on souhaite, c'est que les choses de fond soient là, en fait, que l'infrastructure soit vraiment là, quoi. Donc ça, c'est super important. Par exemple, c'est tout bête, mais 2 ans sortis d'eau comme ça, tous les joints de pont ont séché. Donc on ne peut pas remettre le bateau à l'eau comme ça sans vraiment virer tous les joints de pont et en refaire, ce qui paraît rien, mais qui est en fait un gros boulot parce que ça ne s'enlève pas comme un élastique. Donc ça demande aussi des heures de travail. C'est des choses qu'on va sans doute travailler avec un chantier participatif pour les enlever, etc. La quantité de travail et l'investissement au niveau des pièces de bois va aussi dépendre de l'argent disponible. Et ce n'est pas du superflu, quoi. C'est ça sur quoi je veux insister. On est vraiment sur des choses essentielles qui sont peut-être moins visuelles, moins spectaculaires, mais qui sont liées, en fait. Donc c'est le moment de le faire, quoi.
Et donc, pour réaliser toutes ces actions et pour le rendre, on va dire, parfait, quel est le montant dont vous auriez besoin ?
Alors, le budget total avait été établi à 130 000. Donc aujourd'hui, on est quasiment à la moitié, en fait. Hein, on est quasiment à 50%. Donc on a bon espoir de pouvoir aller un peu plus loin. Mais c'est vrai que chaque argent compte, en fait, vraiment dans toutes les petites choses qu'on a encore à mettre en place et qui sont plus ou moins... comme je disais, rafistoler ou bien on repart sur quelque chose de qualité, de solide et de pérenne. Donc là aujourd'hui, on sait qu'on va pouvoir le remettre à l'eau. Après, ça va être le remettre à l'eau. Est-ce qu'on aura juste mis les membrures et les bordées ou est-ce qu'on aura pu aller plus loin? On nous a beaucoup parlé aussi des chantiers participatifs. C'est important de comprendre que les chantiers participatifs, d'abord, ça dépend quel niveau de technicité il y a besoin. Gratter de la peinture, ça c'est OK, on peut organiser ça, etc. Maintenant, quand il faut refaire un balcon, là on est sur autre chose. Et on ne peut pas non plus être 15 000 à démonter des boulons ou à refaire des tours en bois, quoi. Donc ça dépend aussi de ça. Nous, vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir, dans les mois qui viennent, compléter cet argent pour qu'on puisse combiner le travail des charpentiers de marine avec les chantiers participatifs, de pouvoir déléguer quand il y a des pièces de forgerons aux forgerons, quand il y a des pièces de tourneurs de bois aux tourneurs de bois, de façon à ce que tout se coordonne relativement bien, puisque sinon, on va se retrouver avec le rush, et nous, on veut vraiment le mettre à l'eau cet été, en fait, voilà.
Donc vous avez parlé de chantier participatif. Pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur de choisir de mettre en place un tel chantier ?
Pour nous, c'est une façon aussi de partager, parce qu'on s'est rendu compte, même dans les donateurs, il y en a plusieurs qui ont dit, mais nous, on veut bien mettre la main à la pâte. Hein. On sent qu'il y a un élan aussi d'avoir envie de mettre les mains dedans, quelque part, de participer. Et puis, c'est un bateau qui a toujours fédéré, en fait. On a toujours aimé que les gens se sentent, touchés par ce bateau. Donc, il y a naviguer dessus qui est une chose, mais il y a aussi prendre soin, se rendre compte de ce que c'est. Travailler sur un bateau, c'est pas seulement remuer un pinceau, quoi. Et c'est pas que remuer un pinceau comme sur un mur de maison. Il y a des positions un peu scabreuses. Des fois, on a le nez à moitié dedans, on est corbé dans tous les sens. C'est pas évident. Donc oui, on pense que c'est important à la fois pour valoriser au maximum l'argent qui a été reçu, c'est-à-dire laisser vraiment la technicité nécessaire aux charpentiers de marine pour les choses qui sont lourdes et compliquées et techniques, pour pas remettre en cause vraiment la qualité de la structure. Et puis ce qui est possible de faire par nous-mêmes, de le faire à plusieurs et puis d'apprendre en même temps, d'être guidé, de participer, de s'approprier, de le faire connaître aussi à d'autres personnes. C'est aussi des moments joyeux.
Et donc maintenant, avec les 64 000 que vous avez déjà récoltés, est-ce que on peut avoir une idée de à quoi ressemble le bateau à présent ?
Donc aujourd'hui, en fait, le charpentier de marine a pu travailler pendant presque 2 mois dessus. Il a été super efficace, donc on est vraiment sur le squelette. Il a pu changer les membrures, donc ça c'est très impressionnant parce que c'est des grosses pièces de bois très lourdes, boulonnées, qui vont jusqu'à la quille. Donc il a fallu vraiment aller chercher tout au fond du bateau. On ne savait même pas trop encore si ça allait être possible d'intervenir à ce niveau-là. Et donc c'est chouette parce que ça, voilà, ça c'est une grosse partie de fait. La précinte également, donc c'est la partie du haut, comme des grosses membrures en fret qui maintiennent aussi la forme du bateau. Parce qu'il y a un ordre, hein, faut faire attention de ne pas toucher à la structure. Donc on ne peut pas tout enlever comme ça et juste attendre. Il faut qu'il y ait un minimum de logique pour maintenir la structure. Donc par exemple, il y a eu des bordées temporaires pour maintenir la structure pendant qu'ils défaisaient les membrures. Donc voilà, aujourd'hui, il ressemble vraiment à un squelette avec toute une partie désossée, même si les membrures sont refaites. Et puis, il va falloir finir d'enlever les bordées et remettre toutes les bordées sur le côté bâbord.
Pour débuter les travaux, il a fallu que vous déplaciez le bateau vers la zone de travaux. Il me semble que ça s'appelle le convoyage. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu ce moment ? Comment vous avez vécu tout ce moment-là? Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était jamais sorti de l'eau.
Oui, alors il y a eu plusieurs étapes. Hein. La première étape, j'en avais déjà parlé lors de la première interview, c'était très émouvant, c'était la sortie de l'eau. Donc ça a été le moment le plus fort pour nous parce que à ce moment-là on savait pas ce qu'allait être possible de faire, on savait rien en fait, hein. C'était vraiment l'urgence du moment, le choc du moment, qu'on a eu énormément de chance d'avoir à la fois un grutage de professionnels qui avaient vraiment à cœur qu'il n'y ait pas une deuxième marée sur le bateau. Et nous, on ne savait même pas combien il pesait, en fait, puisqu'il avait été mis à l'eau par glissade. Donc, il n'avait jamais été porté par une grue. Donc voilà, c'était vraiment un grand inconnu. Et effectivement, il était vraiment en limite de portage de la grue. Donc, on a eu beaucoup de chance qu'il puisse être porté par la grue. Voilà, c'était très fort. Et puis, ensuite, il a été amené... ça c'était assez facile, au hangar qui n'était pas très loin, où on a pu se rencontrer il y a à peu près un an, où il a passé un premier hiver. Et puis après, effectivement, ce n'était pas l'endroit où on pouvait faire le chantier. Donc nous, on était très inquiets, en fait, de le transporter à Brest ou à Dornenay. Enfin, on ne l'imaginait pas du tout sur les routes. Il était dans un tel état qu'on s'est dit, oh là là, enfin, même si on sait que maintenant il y a des moyens de transport de qualité qui peuvent sécuriser, etc. Pour nous, chaque manipulation dans l'état où il était quelque chose de risqué. Et puis on souhaitait ne pas l'avoir loin de Camaré, parce qu'on souhaitait que les Camarétois, les gens qui sont habitués à le connaître à Camaré aussi, qui viennent en vacances, les amis, la famille puissent voir tout le déroulé, en fait, aussi des travaux. Donc on a eu la chance de pouvoir avoir un charpentier de marine qui voulait bien venir à Camaré. Au départ, il devait travailler de concert avec Jérémy, qui a aussi un petit peu participé sur le chantier, même s'il est tenu par d'autres projets maintenant. Mais il a fallu le transporter de l'autre côté du port de Camaré. Donc voilà, c'était un peu épique. La mairie a accepté de bloquer le quai. Donc on s'est débrouillé pour bloquer le quai et pouvoir passer par là, puisque c'était plat du coup, donc c'était quand même mieux. Et puis on a eu vraiment une chance incroyable. C'était la même personne qui a travaillé justement au grutage. Cet employé-là est vraiment juste très précautionneux. Donc il a pris toute la matinée, nous on tournait un petit peu autour comme des mouches, toute la famille, là, les oncles, etc. On était tous là. Et puis il nous a dit, écoutez, laissez-moi faire. Et effectivement, le bateau, il a très très bien calé sur la remorque. C'était très délicat et il a fait ça vraiment très très bien. Et puis ensuite, on a limité au maximum tous les chocs, je dirais. Et on a eu une chance incroyable parce que non seulement lui, il est très précautionneux et il connaissait bien son boulot, il savait bien, parce que un bateau qui n'est pas qui est abîmé, c'est un bateau qui travaille. Et chaque fois que ça travaille, c'est pas forcément facile de remettre en place, ça peut aggraver. Donc c'était délicat, c'est pas comme des bateaux en plastique qui déplacent à longueur de journée, quoi. On était vraiment sur autre chose. Mais il savait faire, donc c'était vraiment super. Donc on était juste un peu émus par rapport à ça, prêts à donner un coup de main, si elle besoin de mettre une petite sangle, une petite cale. On était tous sur le quai. Il y avait mon petit neveu qui courait devant pour arrêter les voitures. Enfin, c'était rigolo. Mon autre oncle qui faisait la voiture balai à l'arrière. Enfin, c'était assez marrant. Et on a eu de la chance parce qu'en fait, le matin, c'était tempête, mais vraiment tempête. Quoi. Et on s'est dit, ça va être méga galère. En plus, tout est désossé, tout est ouvert. Ça va prendre dedans le vent. On ne sait jamais trop ce que ça... C'était vraiment la tempête avec la pluie, quoi. Et juste au moment du convoyage, en fait, soleil, quoi. On a vraiment eu un rayon de soleil. Ça a duré toute l'après-midi. Ça a été l'après-midi tout soleil. Et il est rentré dans le hangar et ça a re-été la tempête, quoi. Donc ça, c'était bien. On a vraiment eu beaucoup de chance. C'est pareil, c'était délicat. Il y avait... un petit passage de seuil, de rien du tout. Et c'est là que ça montre, en fait, toute la délicatesse que ça demande et l'expertise que ça demande. Donc, il y avait à la fois les employés du port qui sont venus, parce que c'était un entrepôt qui appartient au port. Donc, ils sont venus et c'était vraiment pas haut, mais c'est vrai que c'était très délicat de juste faire passer cette petite marche. Donc, il a fallu mettre des cales, etc. Mais avec, on est à plus de 10 tonnes, donc c'est pas anodin, c'est pas un truc qui se fait tous les jours non plus. Et puis après, bien le caler à l'intérieur aussi. Donc ouais, c'était une grosse journée. On a bien célébré ça à la fin de la journée. On a pu être là, au contraire, alors que c'était un jour de semaine. On s'est tous débrouillés quand on a su que c'était possible. Et puis d'avoir quelqu'un de qualité aussi qui a pris soin et qui a accepté aussi qu'on tourne autour comme des mouches, là, à essayer de mettre les épontages et tout. Donc, c'était assez émouvant pour nous. Et puis, on était rassurés d'enfin avoir une solution aussi, parce que pendant un moment, on se demandait, mais quoi faire, puisque les travaux ne pouvaient pas se faire là où il était actuellement. Le hangar qui devait se faire au départ à côté du hangar de Jérémy, c'est des demandes de subventions, etc. C'est pas combien de mois et d'années que ça va prendre avant de se faire. On était un petit peu démunis, on se demandait s'il fallait qu'on fasse un chapiteau. Mais enfin, Camaré, quand ils vendent, la preuve, donc c'est pas simple. Donc on était extrêmement soulagés que la mairie mette à disposition ce hangar à la pointe. On est content qu'il soit là, quoi. Puis ça va être chouette aussi pour faire visiter, en fait, parce que du coup il y a d'espace, il y a que lui. Donc c'est bien aussi, on a cette facilité. Ben, voilà, les gens vont se promener, ils vont aller voir la chapelle, Tour Vauban, et puis on peut proposer après de faire la visite, quoi. C'est plus tentant à côté du canot de sauvetage. Donc ouais, ça nous fait bizarre, mais voilà, le Morvac est bien au sec et avec de l'électricité et on peut tourner autour, donc c'est cool. Et donc, on propose aux gens de venir voir parce qu'il n'y a plus beaucoup de chantiers comme ça qui sont aussi accessibles. Déjà, qui existent, il n'y en a pas tant que ça. Puis qui soient accessibles aussi pour à la fois voir ce que c'est, parce que c'est quand même, ben, c'est quand même très visuel, très impressionnant. C'est du travail du bois à l'ancienne, avec des outils aussi qui ont changé, qui ont évolué. Donc, ça intéresse aussi les anciens de voir quels sont les nouveaux outils utilisés, les nouvelles techniques. Ça, c'est aussi très chouette de voir ce mélange ancien-nouveau. Et comme on a la chance de pouvoir avoir des explications, puisque ben, y a à la fois le charpentier qui discute avec mon père qui l'a fait, donc il peut y avoir vraiment des visites guidées.
Donc là, le prochain convoyage, ce sera pour le ramener dans l'eau. Et ce sera pour quand ?
Ouais, c'est la bonne question. Alors moi, je pense qu'il faut toujours regarder l'objectif qu'on souhaite vraiment atteindre. Donc pour nous, c'est vraiment faire la fête au début de l'été pour le remettre à l'eau. C'est vraiment l'objectif. On pense sincèrement que si on ne se fixe pas un minimum d'objectifs pour planifier, on laisse traîner les choses, on trouve toujours des excuses. Et à un moment donné, faut pas s'épuiser non plus avec les choses qui durent trop longtemps. C'est ni bon pour le bateau qui sèche, ni bon pour tous ceux qui crochent dedans, parce qu'à un moment donné on remplace ça par d'autres priorités, on fait par petits bouts, les choses sont moins efficaces aussi, donc c'est vraiment notre objectif aujourd'hui. On aurait même souhaité qu'il puisse être mis à l'eau directement, puisque c'était le hangar est en fait un ancien hangar de charpentier de marine. Donc il y avait la possibilité de si vous voulez, de faire rentrer l'eau dedans pour ensuite mettre le bateau à l'eau. Mais bon, je pense que c'est plus du tout fonctionnel. Effectivement, il va falloir repasser par le quai. Donc l'idée, c'est de le repasser sur le quai, effectivement, et de le mettre par grutage à l'eau. Et puis, ben, de fêter ça, quoi. Donc nous, on aimerait vraiment que ce soit fin juin, début juillet. C'est notre objectif. Et on va tout faire pour que ce soit atteint. Voilà. Et qu'il navigue cet été, quoi.
Et pour vous aider, pour contribuer à ces actions, où est-ce qu'on donne ? Comment on donne de l'argent ou de son temps ?
Alors, pour donner de l'argent, il y a la plateforme HelloAsso qui est très efficace. Donc, vous pouvez aller directement sur HelloAsso. Vous pouvez taper Morvac ou Sauvons Morvac, Les Amis de Morvac. Enfin, voilà, si vous ne retrouvez pas le nom, parce qu'il n'est pas facile, cherchez le nom du cheval du roi Gralon. Là, vous trouverez partout sur Internet. Et puis, si vous voulez donner de votre temps, vous n'hésitez pas, en fait, à nous contacter en fonction de vos disponibilités, en fonction aussi de ce que vous avez comme envie. On peut essayer de trouver des solutions parce qu'il y a plein de possibilités. Par exemple, les chantiers participatifs, c'est aussi des fois faire à manger tout simplement, hein, pour les gens. Donc il y a plein de niveaux de participation. Après, nous, on est aussi ouverts aux idées, hein, pourquoi pas. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont envisageables également dans les actions que vous souhaiteriez contribuer. Si elles sont faisables, bien sûr, on est ouverts à toutes les propositions. L'idée, c'est qu'ils renaviguent et que ce soit fait dans la joie et avec le maximum de gens qui se sentent concernés. Parce que je crois que remettre un vieux gréement à l'eau, c'est quand même un challenge. Tous ceux qui ont travaillé sur des vieux gréments le savent. C'est pas évident. Et si on peut multiplier les aides et les personnes qui se sentent concernées, ben, c'est bingo, quoi. Puis je crois que c'est vraiment l'avenir aussi de ce qu'on souhaite faire en société, c'est d'être en lien. Donc voilà, il est là aussi pour ça, Morvac.
Cette interview a été réalisée en mars 2022. En ce mois de juillet, Morvac n'est pas encore retourné à l'eau. Les travaux continuent et la famille Grouel a toujours besoin de votre soutien. L'objectif, revoir Morvac naviguer sur les flots.